Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Pierce Faccini ou la beauté du geste musical, vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais c'est aussi une voix, une sensibilité féconde et une oreille qui s'offre au monde. Pierce Faccini, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder cet entretien.
Plaisir.
Vous avez des racines italiennes, anglaises, et vous vivez en France. Vous êtes donc trilingue, j'imagine.
Oui, je suis trilingue. Ouais.
Et vous aimez particulièrement les musiques traditionnelles et aussi les dialectes, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une langue qui se prête mieux qu'une autre à la chanson? Et si oui, pourquoi?
Absolument, oui. Donc, je suis un amoureux de la chanson avant tout, et puis après je suis amoureux des formes absolument presque infinies que prennent les formes dans la musique traditionnelle. Donc j'adore découvrir ça et me puiser là-dedans, et parfois proche de mes racines, et puis parfois en allant plus loin de mes propres racines et de mon arbre généalogique. Donc, est-ce qu'il y a des mélodies et des rythmes ou des chansons qui se prêtent mieux à une langue plus qu'une autre? Certainement, parce qu'en fait, c'est une question de corps et d'habillage, en fait. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est comme vous allez sortir et vous allez décider de mettre un pantalon ou une chemise, et vous allez constater qu'elle vous va bien et elle ne vous va pas bien. Eh bien, c'est exactement la même chose dans une chanson. Donc, parfois, c'est selon ce qu'on a envie de faire rythmiquement. Parfois, c'est parce qu'on a besoin d'avoir une certaine liberté pour faire beaucoup d'ornements ou pour tirer les notes, pour tirer certaines syllabes plus que d'autres. Et avec certaines langues, on n'arrive pas à faire ça naturellement. Mm-hmm. Donc, le français est une très, très belle langue, mais à ses limites dans son élasticité par rapport à, par exemple, l'italien, l'espagnol, par rapport au dialecte d'Italie du Sud, par rapport à l'arabe, par rapport au, je sais pas, et l'anglais est particulier, parce que l'anglais, il a à la fois des sons assez durs.
Et une certaine souplesse aussi.
Mais en même temps, il a une certaine souplesse qui fait qu'on peut l'attirer presque comme une langue latine, et plus que le français. Donc, mais encore une fois, j'ai organisé récemment une semaine autour du songwriting où j'ai mené un stage autour du songwriting. C'est le genre de questions qu'on a abordées, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont venus un peu de partout et qui écrivaient dans des langues différentes. Et donc, c'était une des choses qu'on a constaté. Ouais.
Vous êtes effectivement, vous venez de le dire, ce qu'on appelle en anglais un songwriter, un écrivain de chansons, en fait. Oui. Comment vous avez rencontré cette chanson les premières fois, et qu'est-ce que c'est pour vous une chanson réussie?
Une chanson réussie, c'est avant tout une chanson qui vous embarque, en fait, qui vous mène sans aucune hésitation à sauter dans ce navire ou ce vaisseau spatial ou ce bateau ou ce train c'est une navigation. Une chanson, c'est une navigation, c'est un moteur. C'est quelque chose qui crée un voyage pendant la durée de la chanson. Donc déjà, une chanson qui marche, c'est une chanson qui a assez d'énergie pour vous emmener ailleurs et pour vous raconter à la fois quelque chose, pour vous créer quelque chose de très clair et de très précis à l'intérieur, en fait. Donc c'est ça.
Des images.
Des images, des histoires, des émotions. Et puis après, une chanson, c'est aussi comme un poème, c'est-à-dire on le comprend sans pouvoir expliquer pourquoi on le comprend.
C'est ça, la perception.
C'est ça la beauté de la chanson, comme si vous aimez... C'est exactement la même chose que l'amour, c'est-à-dire si vous aimez quelqu'un dans votre vie, et si je vous demande pourquoi vous aimez cette personne, le moment où vous commencez à essayer de le dire, vous allez sentir que...
Les mots vous échappent.
Ouais, c'est-à-dire, il y a presque comme une... Moi, je sens, quand si j'essaie de le faire, presque comme un mauvais goût sur la langue, parce que je sais que je n'y arrive pas, et le mieux, c'est de rester en silence. Voilà. Donc une chanson, c'est aussi maintenir une certaine clarté dans ce qu'on raconte, mais d'une façon mystérieuse, c'est-à-dire pas seulement parce que... les mots ne sont pas équivalents à 1 plus 1 égale 2, 2 ouais. plus 2 égale 4. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et après, dernière chose, je parle beaucoup, mais dernière chose, c'est vraiment une chanson, c'est dans une main le texte et dans une autre main la musique. Mmh. C'est vraiment une belle chanson, c'est toujours le mariage égal entre ces deux univers, en fait. Et c'est cette danse-là entre les mots et la mélodie, le rythme qui fait la chanson. Et je pense qu'il y a beaucoup de traditions de littérature et de poésie dans le monde qui ont commencé par les mots chantés. Donc je pense que les premiers poèmes, nos premières histoires, nos premiers récits comme humains, dans énormément de traditions différentes, viennent par les mots chantés. Donc je pense que moi j'ai un amour et un respect et une révérence à la chanson qui vient vraiment de là. Donc c'est assez différent de par exemple une chanson qu'on entendrait à la radio, sur les radios commerciales, qui est créée avec des algorithmes qui dit que tel ou tel BPM, tel ou tel nombre de fois qu'il faut avoir un refrain, avec des machines sur toutes les voix,
qui
des
dicte autres... un peu les émotions.
Oui, voilà. Donc moi, c'est tout ce qui m'intéresse pas, mais c'est très efficace, comme les publicités, c'est très efficace. Mais là, on parle d'autre chose.
Alors ces émotions que créent les chansons, il y a aussi l'endroit où on les reçoit. Vous avez imaginé un projet original qui s'appelle La Route de la Voix, pour pouvoir jouer plus localement et uniquement en acoustique dans des églises romanes.
Ouais.
Ici, au Festival Éclat, vous allez jouer également en acoustique dans cette église Saint-Pierre du vieux village de Dieulfi, où vous êtes en train de répéter, de vous mettre en place, et où nous nous trouvons. Et quelles sont les émotions spécifiques au fait de jouer en acoustique et dans une très belle acoustique? En quoi ça influence la musique, le son de la musique, ou alors la façon aussi dont elle est reçue par les spectateurs?
En fait, c'est tout ça, c'est tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que, premièrement, puisqu'on parlait des origines de la chanson, parlons clairement du fait que la musique amplifiée, c'est quelque chose qui est venu très, très récemment. Et c'est venu, c'est-à-dire que jusqu'à assez récemment, dans les fêtes de village, quand les musiciens du village ou des villes se rencontraient pour les fêtes pour jouer, on jouait acoustiquement, toujours. Et depuis un moment, on a commencé à dire que non seulement les spectacles pop, de gens qui viennent pas des chansons traditionnelles ni lyriques, donc qui n'ont pas forcément la capacité de chanter en acoustique, ok, on sonorise ça. Mais petit à petit, ça enveloppait tout, et ça enveloppait même les musiques traditionnelles. Donc même les musiques traditionnelles qui, dans certains pays, dans certaines cultures, qui datent des milliers et des milliers d'années, en fait, maintenant, on dit, quand il y a un joueur de tabla en Inde, et ben souvent on va avoir un concert, on va voir que le joueur de tabla, il est sonorisé, il a un moniteur à côté de lui, il est joueur de sitar, c'est pareil. Donc vraiment, pour moi, ça c'est vraiment dommage, je trouve.
Mais
donc,
les acoustiques d'église, par exemple, sont faites pour sonoriser.
Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que l'église, elle est parfaitement là pour sonoriser. Celle-ci, elle est particulièrement belle parce qu'il y a juste un peu de réverb, mais pas trop, donc tout est très clair. Ça c'est vraiment super, voilà. Ça c'est une très très belle acoustique. Mais même quand on joue dehors, dans les musiques traditionnelles, on joue dans une pièce, dans un salon, rien n'empêche la musique acoustique. Donc la musique acoustique, c'est avant tout, si on a du mal avec la musique acoustique, c'est comme si on a du mal avec la musique, pour moi, puisque on a toujours toujours écouté de la musique et joué de la musique de cette façon-là. Donc ça veut dire, déjà, pour moi, on se remet à zéro, comme il faut, quand on joue en acoustique. Et après, on joue sans filtre. C'est important de le dire, c'est une évidence, mais la sonorisation, c'est un filtre. Donc, on joue sans filtre. Sans filtre pour le musicien et sa performance. Sans filtre pour la façon dont la musique communique dans la pièce, acoustiquement, dans le son. La façon dont elle résonne dans la pièce. La façon dont elle communique avec les gens autour, dans leur corps, dans leurs esprits. Dans ce mélange-là. Et tout ça fait qu'il y a une écoute qui est impossible d'avoir dans une salle sonorisée.
Autrement. Hein.
Voilà. Et encore une fois, je précise là-dessus, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on souligne l'importance de la musique, de la démarche acoustique dans La Route de la Voix. Les concerts acoustiques que je fais dans les Cévennes, et là, on va commencer à élargir un peu la route. Et d'ailleurs, ce que je fais
ici.
Déjà, ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est une très belle acoustique. On joue, il y a deux spots s'il faut, je sais même pas s'il y a besoin. On a besoin de rien, on a besoin juste d'un lieu qui sonne, voilà. Et voilà, mais c'est aussi vraiment l'important, c'est incroyable quand on joue une acoustique, comme les gens parfois on note qu'ils ont oublié comment écouter acoustiquement, tellement ils sont habitués à être assommés par les sonos, qu'en fait, quand on joue en acoustique, au début, ils sont là, ils sont presque énervés. Ou...
Il faut se réhabituer.
Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'entendent pas. Il y a des gens qui me disent, mais j'entendais pas. Et en fait, voilà, on a envie de leur dire, il y a un petit souci si vous n'entendez pas. Voilà.
Il faut se réhabituer peut-être.
Exactement. Donc, c'est comme une mise au point, en fait. L'écoute est une mise au point qu'avant, on faisait naturellement, puisqu'on écoutait toujours la musique comme ça. Aujourd'hui, on a tendance à se protéger de la sono. C'est ça qui est rigolo. C'est que quand il y a une sono, en fait, la sono fait qu'il faut qu'on limite la façon dont la sono rentre dans nos oreilles. Quand c'est en acoustique, on va chercher. Donc, on fait vraiment l'opposé. On va chercher la source. Et donc, c'est une démarche qui est complètement différente, et passive et active, en fait.
Vous avez un style plutôt épuré, peu de notes, une grande intensité sonore, une simplicité revendiquée. Ce sont des caractéristiques que l'on retrouve, à mon sens, dans les musiques sacrées. Est-ce que vous avez un lien particulier avec le sacré, et lequel ?
En fait, pour moi, tout est sacré et rien n'est sacré pour moi. Enfin, c'est-à-dire le tout et le rien. Enfin, le rien et le tout, c'est pareil pour moi. Donc, il n'y a pas une chose qui n'est pas sacré pour moi. Mais après, en ce qui me concerne, j'ai pas de dogme, c'est-à-dire je ne pratique pas de religion, mais je considère que chaque atome, chaque cellule, chaque chose est simplement la preuve de quelque chose qui est incompréhensible au niveau du cerveau, mais qui est simplement quelque chose d'un mystère et d'une beauté absolue. Donc je considère que tout est sacré comme rien n'est sacré. Donc en fait, c'est-à-dire, donc la musique est une façon de célébrer ça pour moi personnellement. C'est juste que je peux pas le traduire vraiment comme étant un louange à un dieu chrétien ou une tradition juive ou musulmane ou hindoue ou autre quoi. Mais par contre, je considère que le sacré est plutôt comme une prise de conscience. Comme si on se branchait dans une prise, en fait. Et là, quand on se branche dans la prise, en fait, ça se fait tout seul. Quoi.
Une idée d'élévation, quand même, un petit peu.
Oui et non, parce que quand on dit élévation, on suppose qu'on est bas. Donc, en fait, on est déjà haut. En fait, on est déjà élevé, c'est juste qu'on ne se rend pas compte. Donc, la musique, c'est simplement, pour moi, une façon de voir ce qui est une évidence et ce qu'on a tendance à oublier dans nos vies quotidiennes. Donc, en fait, s'il y a une élévation, c'est simplement qu'on se rend compte qu'il y a une élévation. Mais en fait, l'élévation est toujours là. Donc, c'est pour moi, la musique est un rappel à une espèce d'oubli quotidien, en fait. Voilà.
Comment écoutez-vous la musique ?
Je sais pas, ça c'est... Pour une fois, j'arrive pas à répondre. Je pense que la musique, c'est on écoute la musique quand la musique nous interpelle, en fait. Donc, moi, je peux décider de me mettre, tiens, je suis dans le mood, je vais mettre une musique, mais en fait, la musique, comme la poésie, peut me prendre à n'importe quel moment. Et je peux être au milieu d'une énorme métropole avec des milliers de gens partout et je peux entendre quelque chose ou penser à quelque chose et là, je suis dans la musique, donc... Comme je peux être dans une chapelle et je sais pas, je suis pas dans la musique. Enfin, pour moi, ça peut arriver à n'importe quel moment, mais c'est surtout, j'ai l'impression que c'est une voix ou c'est un instrument qui est une mélodie, un rythme qui lance une communication et elle est toujours là. Et soit on l'entend, on l'entend pas en fait. Donc la musique, c'est simplement les moments où on entend ce qui est toujours là en fait. Pour moi, la musique, elle est partout, quoi. Je pense que les premières musiques, encore, c'est... voilà. Déjà, la nature, c'est un orchestre d'une beauté infinie. Et la musique, on pourra jamais chanter aussi bien qu'un rossignol, par exemple. Donc, écouter le son du vent dans les feuilles d'un arbre... pour moi, tout ça est musique et on est soit on l'entend, ou parfois on est des moments où on ne l'entend pas. Donc, pour moi, l'écoute de la musique, c'est-à-dire des chansons et des musiques jouées par des humains et pas par des animaux.
Par les autres, vous avez beaucoup de collaborations autres, musicales. Donc j'imagine que vous écoutez quand même beaucoup
oui,
de musique.
Oui, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique, ouais. J'écoute beaucoup de musique et puis après je tombe amoureux comme tout le monde là donc et quand je tombe amoureux de façon assez obsessionnelle avec la musique, c'est-à-dire que voilà, la première fois que j'ai entendu le blues du Mississippi, des gens comme Skip James ou Son House ou Reverend Gary Davis, Charlie Patton, tous ces gens-là, ben en fait je suis Mississippi John Hurt, tout ça. Ouais,
Et là, vous écoutez en boucle ?
J'écoutais en boucle, je ne pouvais pas me lasser de ça, j'étais complètement pris, j'étais noyé dans leur influence. Pareil, quand j'ai découvert la musique mandingue, quand j'ai découvert la musique d'Afrique de l'Ouest, quand j'ai découvert la musique du Maghreb, la musique berbère, la musique kabyle, quand j'ai découvert les modes de makam joués au oud, quand j'ai découvert les musiques traditionnelles du sud d'Italie qui sont très proches de mes origines, enfin, c'est coup de foudre à chaque fois en fait. Et on se disait ça d'ailleurs l'autre jour avec une personne donc, que je vais inviter ce soir, qui s'appelle Emmanuel Martin. Et donc Emmanuel qui a étudié le chant carnatique du sud de l'Inde, qui va venir improviser quelque chose avec moi. Et ben en fait, on se disait que voilà, il fallait plusieurs vies
pour tout découvrir.
Pour tout découvrir. Et puis surtout qu'un musicien, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui... Enfin, il faut une certaine gourmandise, parce que moi, j'ai envie de goûter. Mais c'est-à-dire, quand j'écoute quelque chose, eh ben, j'ai envie de le goûter moi-même. C'est-à-dire, j'ai envie d'apprendre à le jouer, j'ai envie d'apprendre... Quand j'entends un mode ou une façon de chanter, j'ai envie de goûter à cette sensation de qu'est-ce que c'est d'avoir ces notes, en fait, en moi. Et donc, voilà.
Et vous enregistrez chaque mois ou presque des chansons qui vous inspirent particulièrement dans une rubrique sur votre site qui s'appelle Songs I Love, que je recommande particulièrement. c'est un peu votre herbier musical à vous.
Ouais, en fait, Songs I Love, c'est un truc que j'ai commencé vraiment quand j'ai démarré mon label, parce que c'était une façon de dire que le label, je l'ai commencé parce qu'avant tout, je suis amoureux de la musique. Et du coup, que je partageais l'amour de la musique comme n'importe quelle personne qui achète des disques comme moi et qui va voir des concerts. Donc, c'était une façon de dire, c'est l'idée de suivre Beating Drum, donc, qui est ma maison de disques, c'était avant tout pour se réunir et partager un amour de la musique. Pas pour dire je suis fan de Pierce ou autre, c'était vraiment pas ça, quoi. Et donc, Songs I Love, c'était une façon de partager des histoires qui sont toujours très touchantes quand moi je les entends des autres. Des gens qui me disent, j'ai découvert telle ou telle chanson ce jour-là, et ça se sent ci, ça se sent cela. Enfin, je trouve ça très touchant, quoi.
Ça s'entend.
Ouais. Et puis c'est drôle parce que de temps en temps, j'ai des gens qui me disent que l'équivalent pour eux de moi, ce que j'ai avec Skip James ou avec Boubacar Traoré, c'est une petite chanson que moi j'avais. Je trouve ça toujours très drôle, quoi.
Ça se perpétue.
Ouais.
C'est universel. Merci beaucoup, Pierce Facchini. On va vous laisser vous préparer pour le plaisir. Concert.
Merci pour les bonnes questions.
Et bon concert.
Merci. Radiola.media.